J'espère que vous arriverez à m'entendre et j'espère surtout que la voix va tenir la distance. Nous vivons dans un monde, une société où les gagnants, les winners, sont ceux qui en imposent, ceux qui sont plus malins que les autres, ceux qui savent trouver la faille dans le système, parfois faire fi des règles, ceux qui sont plus agressifs, moins naïfs, ceux qui se battent pour leurs idées, pour leurs rêves, pour leurs idéaux, ceux qui en veulent, qui s'obstinent, qui ne se laissent pas faire. Les forts persévèrent et gagnent, alors que les faibles renoncent et perdent. Je ne vous apprends rien si je vous dis que nous vivons dans une société occidentale qui a fait du divertissement, du plaisir et du loisir certains des objectifs suprêmes de la vie, qui sont même devenus pour beaucoup de nos concitoyens leur raison de vivre. On vit sa semaine en ne pensant qu'au week-end, pour le week-end. On vit de plus en plus difficilement le moment présent et de plus en plus dans l'optique des bonnes choses qui sont devant nous. Ce qui compte vraiment, ce sont les loisirs, les congés, les RTT, les voyages, la satisfaction de nos désirs et la réalisation de nos rêves. Et dans ce domaine, un slogan publicitaire bien connu semble avoir été adopté par beaucoup comme mot d'ordre. Nous poursuivons nos rêves et notre plaisir parce que nous le valons bien. C'est notre droit. C'est légitime. Nous travaillons dur toute l'année pour cela. Ce qui compte plus que tout, c'est l'épanouissement personnel, c'est l'accomplissement de soi, et malheur à celui qui pense et agit autrement. En face de cette réalité, de ce constat, j'en conviens à l'emporte-pièce, nous avons une parole de Jésus. Une parole de Jésus qui, une fois de plus, va à contre-courant, semble aller à contre-courant. Cette parole, c'est celle où Jésus dit qu'il faut renoncer à soi pour le suivre et qu'il faut porter sa croix pour le suivre. Cette parole de Jésus, comme beaucoup d'autres, est surprenante et peut-être même dérangeante. Dérangeante parce qu'elle fait tache au milieu du consensus général dont je viens de parler. Dérangeante parce que finalement nous ne savons pas trop quoi en faire dans notre vie et en particulier face aux sollicitations incessantes de notre société de consommation. Comment vivre le renoncement à soi dans un monde qui ne se soucie que de l'accomplissement de soi? Et puis comment donner envie aujourd'hui à quelqu'un de suivre Jésus quand Jésus dit que pour le suivre, il faut renoncer à soi et qu'il faut porter sa croix? Ça va, vous arrivez à m'entendre et à me comprendre? Ça va? Bon. Force est de constater qu'il y a des discours bien plus fédérateurs que celui-ci. Force aussi est de constater que cette parole de Jésus est finalement bien peu attrayante. Bien peu attrayante dans un monde qui vante sans arrêt les plaisirs et le loisir. Que faire de cette parole de Jésus? Comment la comprendre? Et puis surtout, comment la vivre? Il y a 15 jours, nous avons démarré une nouvelle série que j'ai intitulée « Et pourtant Jésus l'a dit ». Et cette série propose de considérer certaines des paroles de Jésus les plus surprenantes ou les plus dérangeantes, celles peut-être que nous mettons le plus facilement de côté parce que nous ne savons pas trop comment les manipuler. Et nous avons médité la dernière fois, c'était le premier volet de cette série, la parole de Jésus qui nous invite à pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Suivre Jésus, suivre le Christ, je l'ai dit la dernière fois, c'est suivre son enseignement, c'est suivre son exemple, c'est marcher à sa suite, c'est tenir compte de ce qu'il dit, tenir compte de sa volonté. Et parce que Jésus l'a dit, nous ne pouvons pas faire comme s'il ne l'avait pas dit. D'où le titre donc de notre série « Et pourtant Jésus l'a dit ». Et ce matin donc, nous allons considérer cette autre parole de Jésus, où il est question de renoncement à soi et où il est question de porter sa croix. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ces deux paroles ? Comment pouvons-nous bien les comprendre pour bien les vivre ? À quoi nous engagent-elles vraiment ? Et puis, qu'est-ce qu'elles ne veulent pas dire ? C'est ce que je vous propose de considérer maintenant. Et je vous invite à lire avec moi dans le texte qui va être projeté ou alors à lire dans vos Bibles. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Je lis au chapitre 8, versets 34 à 38. Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit : Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? Que donnerait un être humain en échange de sa vie ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Un mot tout d'abord sur le contexte de ce passage, où Jésus précise ce que veut dire de le suivre. Et cette précision de Jésus, il l'a faite à la suite de deux paroles notables de Pierre, son disciple. La première de ces deux paroles notables de Pierre est celle quand il déclare que Jésus est le Christ. Magnifique déclaration de Pierre. Tu es le Christ. Autrement dit, tu es le Messie. Jésus vient de demander à ses disciples de lui dire ce que la foule, ce que les gens disent de lui. Et au verset 27 que nous allons lire dans un instant, Jésus leur demande, au dire des gens, qui suis-je ? Et les propos rapportés par les disciples sont divers. Certains pensent que Jésus est Jean-Baptiste, d'autres qu'il est Élie le prophète, d'autres encore qu'il est un autre prophète. Puis Jésus affine sa demande et il demande à ses disciples ce qu'il est pour eux. Et c'est là que Pierre prend la parole et affirme que Jésus est le Christ. Voilà le texte que je vais lire maintenant. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui dirent, « Pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je ? » Pierre leur dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroie pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Oui, Jésus est effectivement le Christ. Le Messie, celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu avait promis, annoncé, et qui est maintenant là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis surtout, de quelle nature est-ce Messie ? Et puis, encore plus précisément, de quelle nature est sa mission ? Les choses doivent être précisées. Et c'est ce que fait Jésus. Jésus précise les choses parce que les attentes de beaucoup et les attentes des disciples en particulier étaient erronées sur le sujet. Ils attendaient un Messie triomphant. Ils attendaient un Messie conquérant, guerrier. Le Messie qui allait redonner la souveraineté aux Juifs, qui allait leur redonner leur terre et chasser les Romains hors de Palestine. On peut se souvenir ici de la réaction de Pierre dans le jardin de Gethsémané quand les soldats romains viennent arrêter Jésus. Pierre qui tire son épée pour défendre Jésus, qui coupe l'oreille d'un serviteur. Pierre qui à l'évidence est prêt pour le combat. L'heure du combat aurait-elle enfin sonné ? L'heure de la délivrance messianique telle qu'il la concevait est-elle enfin arrivée ? Les disciples avaient besoin de comprendre la vraie nature du Messie et la vraie nature de sa mission, de délivrance. C'est pourquoi Jésus en profite, après cette très belle confession de Pierre, pour préciser les choses. Et il annonce ses souffrances et sa mort. Il n'est pas un Messie conquérant tel que les disciples l'attendent, tel que le peuple l'attend, tel que les zélotes l'attendaient. Il n'est pas ce Messie conquérant au sens militaire, mais il est un Messie souffrant. Un Messie qui est venu subir à notre place la condamnation de nos péchés. Un Messie qui est venu non pour nous délivrer des Romains, mais venu pour nous délivrer d'un mal bien plus profond, celui de notre péché. Je lis la suite de ce passage et nous arrivons ensuite à notre texte. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua. « Pierre, va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Ces précisions de Jésus sont loin de correspondre à ce que les disciples, représentés ici par Pierre, pouvaient penser du Messie et de sa mission. Il n'est d'ailleurs pas possible aux yeux de Pierre que les choses se passent telles que Jésus est en train de les dire. Impossible que le Messie souffre, qu'il souffre beaucoup encore moins. Impossible qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes. Impossible qu'il soit tué, vaincu, battu, humilié, terrassé. C'est pas possible. Pierre ne peut pas le concevoir. Jésus doit se tromper. Il n'a sans doute pas bien compris les choses pour l'instant. Et Pierre se sent le devoir de reprendre Jésus, de corriger le tir, de remettre les pendules à l'heure, de remettre un peu d'ordre dans les pensées de Jésus qui, à son avis, en ont bien besoin. Et c'est ainsi qu'il prend Jésus à part et qu'il le rabroue. Il lui fait la leçon. Seigneur, ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Seigneur, laisse-moi te dire que tu n'as peut-être pas très bien compris les choses. Tu n'as peut-être pas très bien compris la situation. Jamais tu ne souffriras de la sorte. Jamais tu ne seras rejeté par les autorités. Jamais tu ne seras mis à mort. Et dans le texte parallèle de Matthieu, le même passage mais raconté par Matthieu, Pierre le dit textuellement que ces choses n'arriveront jamais. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Pierre n'avait pas compris. Il mettra d'ailleurs un certain temps à comprendre, lui et les autres disciples. Il ne sait pas ce qu'il dit. Et il ne sait pas vraiment à qui il le dit à ce moment-là. Et Jésus doit le reprendre très sévèrement. « Va-t'en derrière moi, Satan. » C'est quand même pas rien. C'est pas rien parce qu'en parlant ainsi, Pierre a fait le jeu du diable. Le jeu du diable qui veut détourner Jésus de sa mission, de sa véritable mission. Le jeu du diable qui lui propose un chemin sans souffrance. Un chemin qui ne passe pas par la croix, comme déjà il a essayé de le faire lors des tentations dans le désert. Jésus reprend sévèrement Pierre, mais il ne s'arrête pas là. Il saisit l'occasion pour enseigner. C'est d'ailleurs ainsi que Jésus fonctionne souvent, nous le savons. Il se saisit des occasions comme des tremplins pour enseigner, pour emmener ses disciples plus loin. Et c'est là que se situe notre passage de ce matin. Les disciples ont besoin de comprendre quelle est la véritable nature du Messie. Ils ont besoin de comprendre quelle est la véritable nature de sa mission. Et donc Jésus va préciser ces choses. À la redéfinition du Messie correspond la redéfinition de la vie de disciple, de la vie de ceux qui le suivent. La vie du disciple du Christ souffrant et mourant est une vie de renoncement à soi et une vie où il faut porter sa croix. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Nous arrivons donc à notre texte. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ces deux paroles qui nous intéressent ce matin s'inscrivent dans les exigences que Jésus précise pour celle ou celui qui veut le suivre, pour celle ou celui qui veut être son disciple. Parce que suivre Jésus n'est pas à la carte, n'est pas laissé à l'appréciation du disciple. Ce n'est pas quelque chose à géométrie variable. Parce que si c'était le cas, alors chacun ferait comme bon lui semble et le royaume de Dieu deviendrait une belle pagaille, si vous me permettez l'illustration. Suivre Jésus doit se faire selon ses exigences, selon sa parole et selon sa volonté. Ce qui retient tout d'abord mon attention devant ces deux paroles, ces deux versets, c'est l'honnêteté du discours de Jésus. L'honnêteté du discours de Jésus parce que Jésus ne fait pas de la publicité mensongère. On est tellement habitué à la publicité mensongère. On sait très bien que quand on nous montre un truc là, c'est pour nous en vendre un autre. Hein. On fait des associations, on est tout le temps manipulé de cette manière-là. Rien de tout ça avec Jésus. Il ne dit pas une chose pour en obtenir une autre. Il n'y a pas tout en bas, écrit en tout petit, autre chose que vous remarquez une fois que vous avez signé le contrat. Jésus annonce la couleur dès le départ à celui qui veut le suivre. Et quiconque s'engage à sa suite sait à quoi s'attendre ou devrait savoir à quoi s'attendre s'il a été bien enseigné. Il y a donc des exigences précises pour suivre Jésus. Et Jésus lui-même les énonce très clairement dans notre texte. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lors du siège de Rome en 1849, j'y étais pas, mais j'ai bien évidemment trouvé cette illustration quelque part, Vous avez sans doute entendu parler de Garibaldi, le célèbre patriote de cet événement, qui, semble-t-il, a fait une déclaration qui est parvenue jusqu'à nous, déclaration qui est devenue célèbre. Et voici ce qu'il dit. « Soldats, tous nos efforts contre des forces supérieures ont été vains. Je n'ai rien à vous offrir, si ce n'est la faim, la soif, la souffrance et la mort. Mais j'appelle tous ceux qui aiment leur pays à se joindre à moi. » Et ceux qui ont suivi Garibaldi savaient à quoi s'en tenir. Et ainsi doit-il en être du disciple de Jésus. C'est en connaissance de cause qu'il doit s'engager à la suite de son maître. Et il peut le faire parce que Jésus ne fait pas miroiter autre chose que la vérité, même si cette vérité peut nous bousculer, nous déranger, peut-être même nous faire peur. Première des exigences mises en avant par Jésus pour celui qui veut le suivre est le renoncement à soi. Que veut dire renoncer à soi ? Il me semble que cette notion du renoncement à soi fait partie des notions de la vie chrétienne qui sont trop souvent mal comprises. Par renoncement à soi, beaucoup comprennent le renoncement au plaisir de la vie. Le renoncement au plaisir de la vie sous toutes ses formes. Beaucoup voient dans cette exigence de Jésus un appel à l'austérité, un appel à une vie plate et ennuyeuse. Et beaucoup sont arrêtés dans leur intérêt des choses de Dieu parce qu'en entendant cette parole, ils comprennent, ils croient comprendre que suivre Jésus, c'est s'engager dans une vie qui n'est faite que de restrictions, d'abstinence et de contraintes. Vous le savez, si vous suivez le Seigneur, la réalité est tout autre. Parce que la vie avec Jésus est passionnante. Et elle est non seulement passionnante, mais en plus, Dieu veut que nous jouissions de la vie qu'il nous donne. Et Dieu prend plaisir quand nous sommes heureux, quand nous jouissons et profitons de tous les biens qu'il a mis à notre disposition. Non, renoncer à soi, ce n'est pas renoncer à tout ce qui nous fait plaisir dans la vie. Ce n'est pas vivre sans passion et sans rêve. Ce n'est pas ça, renoncer à soi. Écoutons quelques paroles de l'Ecclésiaste. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Cela vient de la main de Dieu. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Jouir et se réjouir de la vie est un don de Dieu. Cela vient de la main de Dieu. Alors si Dieu veut que nous jouissions de la vie qu'il nous donne, que veut dire renoncer à soi ? Et j'aimerais suggérer que renoncer à soi, ce n'est rien d'autre que renoncer à diriger sa vie sans Dieu. C'est vite dit, hein, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre quand même. C'est accepter de laisser la parole de Dieu avoir voix au chapitre dans ma vie. Et sans doute même souvent le dernier mot dans ma vie, et en particulier dans le domaine du péché. C'est aussi la volonté soutenue de dire non à soi, afin d'être en mesure de dire oui à Dieu. C'est en fin de compte accepter de laisser Dieu prendre les commandes de ma vie. Vous le savez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont appropriés cette prérogative divine. Ils ont décidé de transgresser les commandements de Dieu et de prendre leur destinée dans leurs mains. Et nous pourrions dire qu'ils ont tout simplement coupé le cordon ombilical qui les reliait à Dieu. Ils ont fait le choix de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et en prenant la direction de leur vie en main, ils ont expulsé Dieu du poste de pilotage. Et renoncer à soi, c'est renoncer à ce droit usurpé dans le jardin d'Éden. C'est renoncer à cette indépendance acquise par la désobéissance. C'est revenir à une relation avec Dieu où Dieu est à nouveau le maître de ma vie. En résumé, je dirais que renoncer à soi, c'est donner à Dieu par Christ toute la place qu'il mérite dans ma vie en tant que Dieu, en tant que Créateur. C'est la première des exigences soulignées par Jésus pour celle ou celui qui veut le suivre, mais ce n'est pas la seule. Et la deuxième exigence de Jésus envers ceux qui veulent le suivre, c'est qu'ils doivent donc porter leur croix. Revenons à notre texte. L'exigence du renoncement à soi est renforcée par celle d'une croix qu'il faut porter. Si le renoncement à soi, si cette notion du renoncement à soi est souvent mal comprise, la croix qu'il faut porter n'est pas en reste de mauvaise compréhension. On entend parfois dire, par exemple, de la maladie, de la belle-mère, ou des épreuves de la vie, c'est ma croix. C'est la croix que je dois porter pour le Seigneur. Ou le beau-père aussi, hein. Pour trop de chrétiens, porter sa croix signifie assumer, faire face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Chers amis, j'aimerais simplement vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour devoir faire face à ça. J'aimerais suggérer que porter sa croix, c'est tout autre chose. C'est accepter à notre niveau, et toute proportion gardée, bien évidemment, de souffrir quelque chose des souffrances que Jésus a souffert. Je m'explique. C'est accepter, et je dis bien accepter, non pas rechercher, c'est accepter d'être rejeté pour lui parce qu'il l'a été pour nous. Je ne le recherche pas, mais si je dois le vivre, je l'accepte, parce que ça fait partie du contrat. D'être rejeté pour lui parce qu'il l'a été pour nous. C'est accepter, non pas rechercher, d'être maltraité pour lui parce qu'il l'a été pour nous. C'est parfois accepter, et bien évidemment pas rechercher, de mourir pour lui parce qu'il est mort pour nous. Et j'aimerais vous suggérer que c'est cela, porter sa croix. Quand Jésus prononce les paroles de notre texte, la sentence de mort par la croix dans la Palestine occupée par les Romains était malheureusement une triste réalité quasiment quotidienne. On a crucifié à tour de bras en Palestine et tout autour du bassin méditerranéen. Et puis ceux à qui Marc écrit son évangile, on est aux environs de 65-66 après Jésus-Christ, sont persécutés. Ce sont des chrétiens persécutés qui reçoivent cet évangile de Marc. Et la croix est devenue pour eux le symbole des souffrances et de la mort de Jésus. Et pour les auditeurs de Jésus, comme pour les destinataires de l'évangile de Marc, il est clair, quand Jésus parle de porter sa croix, qu'il parle ici de souffrance et de mort. Chers amis, voilà peut-être un programme, une exigence qui peut nous faire peur, qui peut nous faire trembler, qui peut-être même nous terrorise. Ne soyons pas surpris si nous trouvons au fond de notre cœur la crainte de ces choses, parce que personne n'est suffisamment fort par lui-même pour faire face à cette croix qu'il faut parfois porter. Mais soyons assurés que Dieu ne manque jamais, qu'il ne manquera jamais de soutenir les siens dans l'épreuve, même et surtout quand il nous faut porter notre croix. Et nous trouvons à ce propos bien des promesses dans la parole de Dieu. J'aimerais en rappeler deux, il y en a tellement, j'aurais pu en choisir bien d'autres. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et un peu plus loin, toujours dans le prophète Ésaïe, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Ces promesses et bien d'autres encore, dans le Nouveau Testament aussi, bien évidemment, sont pour nous, si nous sommes enfants de Dieu. Et cela, quelles que soient les circonstances de notre vie, même quand il nous faut porter notre croix. Jésus demande donc à ceux qui veulent le suivre de non seulement capituler la direction de leur vie, mais aussi d'être prêts littéralement à la donner pour leur foi en Jésus. Comprenons bien que tous les chrétiens ne sont pas appelés à être des martyrs de la foi, mais que tous sont appelés à être prêts à le devenir. La nuance est importante. Et il peut arriver parfois, et si nous recevons les nouvelles de Portes Ouvertes, par exemple, ou d'autres associations chrétiennes qui travaillent dans ces pays où les chrétiens sont persécutés, nous savons que ces choses arrivent et qu'elles arrivent quotidiennement dans notre monde. Il peut arriver parfois que l'ultime décision qu'un chrétien doive prendre dans sa vie, c'est de renoncer à sa vie plutôt que de renoncer au Christ. Savez-vous ce que je trouve beau dans cette double demande de Jésus ? C'est que Jésus ne demande rien à ses disciples qu'il ne se soit appliqué à lui-même. Alors qu'il était sur terre, il a non seulement complètement soumis sa volonté à son Père, mais il a aussi choisi la croix par amour. Et il nous laisse un exemple à suivre. Et l'apôtre Pierre en parle de manière très belle dans sa première épître. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous le savons, la vie chrétienne répond à une logique d'imitation. Et le disciple marche à la suite de son maître en imitant son maître. Et la cerise sur le gâteau, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'il y a un grand réconfort, une grande espérance attachée à cette logique de marcher là où Jésus a marché. Certes, nous devons porter son opprobre. Oui, nous devons porter sa croix. Mais après la souffrance, viendra la gloire. Après avoir souffert, Jésus a été glorifié. Et ainsi en sera-t-il de celui qui porte sa croix pour suivre le Christ. Et l'apôtre Paul le dit de manière très belle dans son épître aux Romains. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pour être glorifié avec le Christ, je dois marcher à sa suite. Et je dois marcher à sa suite selon ses exigences, en renonçant à moi, c'est-à-dire en lui laissant prendre les commandes de ma vie, et puis en portant ma croix, c'est-à-dire en marchant sur un chemin qui est parfois un chemin de rejet, de mépris, d'incompréhension des gens qui m'entourent, peut-être de honte, d'opprobre que je dois porter, d'humiliation, et puis parfois, comme je le soulignais, même de mort. Il y a des temps et des endroits où ces paroles résonnent d'un réalisme saisissant. Et je suis persuadé que ces versets, c'est tout ce que nous sommes en train de dire, a un écho tout à fait différent que chez nous, ici, à Nîmes, dans notre monde occidental, dans ces pays où les chrétiens sont persécutés, où ils sont persécutés pour leur foi et où ils ont un prix très fort à payer. C'est parfois le prix de leur vie qu'ils doivent payer pour suivre le Christ. Les lecteurs de Marc vivaient la persécution et il était indispensable qu'ils comprennent la réalité de la croix pour le disciple de Jésus. Il était indispensable qu'il soit préparé à prendre la décision ultime de choisir Christ plutôt que leur vie, si cela devenait nécessaire. Alors, grâce à Dieu, nous ne connaissons pas aujourd'hui de persécution sévère en France. Il y a bien des choses qui se passent dans les... dès qu'on témoigne de notre foi, il n'y a pas toujours de la compréhension, mais ce n'est pas une persécution sévère. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à ces choses. Parce qu'en plus, personne ne sait de quoi demain sera fait. Et il est important que nous réfléchissions aussi à ces choses. Mes amis, il y aurait encore beaucoup de choses très intéressantes à dire ici, dans ce passage. Je n'ai parlé en réalité que du verset 34 et la suite qui va avec est aussi importante, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Jésus parle de perdre sa vie pour la gagner ou de la gagner pour ne pas la perdre, enfin de la sauver pour la perdre, pardon. Il est question de la futilité de gagner le monde entier si au final je perds ma vie. Il est question de la honte que le Seigneur aura de moi si j'ai honte de lui ici-bas. Mais je voudrais terminer maintenant. Je le redis, ces deux paroles, et vous serez sans doute d'accord avec moi, sont exigeantes. Elles sont exigeantes, mais elles sortent de la bouche de Jésus. Elles sont exigeantes, mais elles sont pleines de promesses. Promesse de vie pour celui qui suit Jésus et qui le fait selon les exigences de son maître. Promesse de vie pour celui qui renonce à lui-même pour le Seigneur. De celui qui renonce au trône de sa propre vie pour laisser le Seigneur s'asseoir dessus. Promesse de vie pour celui qui porte sa croix pour le Seigneur et qui un jour entrera dans la gloire de son maître. Peut-être n'êtes-vous pas encore décidé à suivre Jésus. Peut-être même que ce que j'ai dit ce matin vous a refroidi de le faire. Peut-être êtes-vous disciple de Jésus, mais vous n'aviez jamais trop pensé à la vie de disciple de cette manière-là. Permettez-moi de vous dire que si ce chemin que j'ai esquissé ce matin est exigeant, c'est néanmoins le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie éternelle. Et c'est le chemin de la vraie vie ici-bas. Pourquoi est-ce que je dis de la vraie vie ici-bas? Parce que la vraie vie, c'est de vivre en communion avec son Créateur. Chers amis, si le chemin est exigeant, et il l'est, Le Seigneur est avec nous et il est avec nous tous les jours. Si le chemin est exigeant, et il l'est, le Seigneur nous a laissé sa parole, ses promesses et son esprit. Si le chemin est exigeant, et il l'est, nous pouvons toujours compter sur le Seigneur qui nous donne le vouloir et le faire, qui nous donne toujours au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Si le chemin est exigeant et il est, le Seigneur donne toujours ce qu'il ordonne et nous pouvons nous attendre à lui avec confiance. Il marche avec nous sur ce chemin exigeant. Il nous précède et au même temps il nous accompagne. Il nous entoure par devant et par derrière. Il nous donne son exemple. Et par-dessus tout, il nous offre sa grâce. Sa grâce pour nous relever quand nous tombons sur ce chemin exigeant. Sa grâce pour reprendre la route quand nous nous sommes arrêtés sur le bas-côté parce que nous n'en pouvions peut-être plus. Sa grâce jour après jour. Oui, le chemin est exigeant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur y marche avec nous. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.